à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour aborder la question de l'accès des femmes à la terre, plus précisément la possession des terres, à savoir qui les possède, car nous savons qu'une grande majorité de femmes actives en Afrique exploitent des terres et pratiquent le maraîchage, mais sont rarement propriétaires des terres sur lesquelles elles travaillent. Par exemple, au Mali, 10 à 15% des terres aménagées pour des projets de développement sont réservés aux femmes, mais la mesure est rarement appliquée, le droit coutumier faisant fi des législations en vigueur. Au Sénégal, 80% des femmes actives pratiquent une activité agroalimentaire. Elles disposent de 13% des terres et ne reçoivent que 1% des prêts alloués à l'agriculture. En République démocratique du Congo, une loi interdit les coutumes et usages qui restreignent l'accès des femmes et des jeunes à la terre, mais la réalité est différente sur le terrain. Contribuant de manière significative à la production alimentaire, les femmes ont en effet des difficultés à posséder la terre. Alors nous allons voir quels sont les obstacles à l'accès des femmes à la terre, comment renforcer cet accès, ce qu'il en est dans certains pays, à savoir s'il faut des lois pour garantir les droits des femmes, notamment en matière d'héritage et de propriété foncière, comme c'est le cas dans plusieurs pays, et surtout que faire pour que ces lois soient appliquées. Nous avons comme invité Dr Séliba, sociologue sénégalaise et experte en genre islam. Je dis bonjour à Séliba, qui doit être là, pardonnez-moi, pour ce problème de communication avec la production. Comment allez-vous?
Bonjour Nathalie, je vais très bien.
Merci.
Et voilà, contente d'être invitée.
Voilà. Alors, on va commencer un petit peu par voir un petit peu quels sont les obstacles, hein, avant de parler d'une directive, hein, d'une circulaire là qui est sortie assez récemment. De quel ordre sont les obstacles au Sénégal d'une manière générale? Est-ce qu'on a des pesanteurs encore socioculturelles sur ces questions d'accès à la terre et en tout cas de propriété de la terre pour les femmes?
Exactement. Le problème fondamental, c'est que les présentateurs socioculturels, il y a toujours la mainmise des hommes sur les terres agricoles et les concessions familiales. Donc, depuis des temps immémoriaux, les femmes ont été mises à l'écart dans l'héritage, parce que le problème, c'est l'héritage de la terre. Il y a aussi son achat et son acquisition. Parce qu'aujourd'hui, en milieu rural au Sénégal, c'est l'héritage qui est considéré comme l'un des moyens pour l'accès des femmes à la terre. Et malheureusement, les femmes n'héritent pas. Au Sénégal, nous n'avons pas un problème de texte. Quand vous prenez notre constitution, depuis 2001, la constitution accorde un égal accès aux ressources aux hommes et aux femmes. Et cette constitution dit tout simplement dans son article 15 que le droit de propriété est garanti par la présente constitution. Il ne peut être atteint que dans le cas de nécessité publique légalement constatée. Donc, dans cette constitution, l'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi. Donc, l'autonomisation de la gestion de ses biens est garantie également par cette constitution. Et la femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle. Donc, quand vous faites une analyse globale de notre législation, en tout cas la législation sénégalaise en matière foncière, on voit qu'il n'y a pas de discrimination sur la question des droits d'accès, de contrôle et de transmission de la terre en milieu rural. Et ça a été conforté par une loi de 1964 qui s'appelle le domaine national, qui offre à tous les citoyens ruraux, indépendants de leur sexe et de leur âge, la possibilité de prétendre à une affectation des terres sous réserve de remplir en tout cas certaines conditions prédéfinies par tout le monde. Mm-hmm. Donc le texte juridique donne en tout cas aux femmes des droits d'accès aux fonciers égaux à ceux des hommes.
Voilà. Donc ça, en quelque sorte, il s'agit là de la théorie et on va voir d'un petit peu plus près la pratique tout à l'heure. Docteur Séliba, restez avec nous. Écoutons au Togo Aimé de Souza qui est syndicaliste.
Au Togo, les femmes ont accès à la terre. C'était dans le temps passé, on disait que la femme ne devait pas avoir accès à la terre parce qu'elle aura un foyer à construire avec un autre homme dans une autre famille. Mais au jour d'aujourd'hui, toi, femme, tu veux acquérir une terre pour construire, pour faire du champ avec, pour faire de l'agriculture, tu as accès. Reste à savoir dans le domaine où tu veux aller acheter ta terre. de connaître les lois, de connaître les règlements et de connaître ton droit aussi. Quand tu vas acheter les reçus, les papiers, quand tu as tout à ta disposition, il n'y a aucun problème pour t'en approprier. Donc, reste aux femmes d'avoir la conscience éveillée, d'avoir cette maturité et de se défendre.
C'était Aimé de Souza au Togo. Docteur Seliba, il y a eu récemment donc des directives de la part du ministère de l'Agriculture en ce qui concerne justement l'accès à la terre pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Effectivement, il y a cette directive, mais avant cette directive est tirée d'une lettre, d'une circulaire qui a été élaborée, mise en place depuis 2018. Donc, ces directives sont tirées de ces circulaires. Et dans cette circulaire, c'est les quotas qui sont affectés aux femmes. Par exemple, pour tout ce qui est aménagement à réaliser, tout ce qui est eau de surface, tout ce qui est engrais subventionné. Donc, des quotas sont posés, 15% des aménagements qui doivent être destinés aux femmes, 20% des engrais subventionnés doivent être destinés aux femmes, au moins 10% même des tracteurs subventionnés doivent être destinés aux femmes. Les financements, parce que l'accès à la terre, hein, c'est un problème, mais la mise en valeur de cette terre-là, il faut en tout cas les moyens économiques pour pouvoir valoriser cette terre. Et dans ces directives-là, il faut au minimum allouer 40% en tout cas des financements aux femmes. Parce que, comme tu l'as dit au début, Nathalie, au Sénégal, la main-d'œuvre agricole, c'est essentiellement une main-d'œuvre féminine. Ça varie entre 70 à 80% de la main-d'œuvre agricole. Donc, les femmes sénégalaises constituent 70 à 80% de la main-d'œuvre agricole et malheureusement, elles ne disposent pas, elles ne sont pas propriétaires de terre. Il n'y a que minimum entre 13 et 16% de femmes qui sont propriétaires de terre et on ne peut pas régler la question de la sécurité alimentaire en faisant fi de cet apport, en tout cas important. Et je pense que les nouvelles autorités qui sont installées récemment ont compris en fait l'enjeu et sont en train de faire appliquer en tout cas cette directive-là, parce qu'il nous faut aller vraiment vers des quotas, parce que le cadre juridique est là, mais il y a un problème d'applicabilité, parce que le terrain reste difficile, parce que tout simplement les femmes sont victimes d'un système social inégalitaire. Il y a des critères historico-culturels qui sont fortement dépendants des rapports sociaux de sexe. Il nous faut aujourd'hui des initiatives comme les quotas qui peuvent un peu équilibrer les choses.
Alors c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, docteur Seliba, justement, qu'est-ce qui fait qu'on en est toujours là finalement. On va rester encore un petit peu au Togo pour écouter un auditeur de VO Afrique, c'est Sénat d'Odzi Kwadio. Et tout de suite après, on ira en République démocratique du Congo pour écouter Caroline Pindi.
Les obstacles des femmes à l'accès des terres et le financement et l'accompagnement et le suivi. Le secteur d'agriculture est un domaine croissant qui convient bien aux femmes. Donc les femmes ont besoin de suivi, du financement et plus d'accompagnement pour se lancer dans ce domaine. Tout le monde a ses droits. Il doit avoir des lois qui protègent les femmes et garantissent les droits des femmes en matière d'héritage et de propriété ou bien des droits fonciers. Ce qui appartient à une femme, que ce soit l'héritage ou bien ce qu'elle a gagné de sa sueur, ça doit lui revenir.
Dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de lois qui sont votées en faveur des femmes, même les lois de succession en fait. Mais on a un problème par rapport à l'applicabilité de ces lois. Donc c'est bien de voter des lois, de mettre en place des systèmes ou des stratégies pour l'émancipation ou l'épanouissement de la femme. Mais le problème, c'est vraiment l'applicabilité. Comment faire pour que ces lois soient appliquées? Parce que l'information en fait ne circule pas bien. Il y a un problème de vulgarisation justement de l'information et aussi de suivi. Parce que l'information peut être vulgarisée, mais le suivi doit être effectif. Il faut qu'il y ait des mesures contraignantes, parce que c'est bien de voter des lois, mais quand il n'y a pas de mesures contraignantes, les gens font ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent que bon voilà, la loi est là, mais bon, on ne nous fera rien du tout. Et ça, c'est un problème sérieux. Les femmes doivent être vraiment protégées.
Voilà. Docteur Seliba, vous avez entendu, et on a eu plusieurs réflexions comme ça, sur le fait que, bon, voilà, les lois sont là, il y a des nouvelles lois, il y a des réformes, mais faut-il encore les appliquer? Moi, je voudrais revenir sur votre circulaire, là, récente, justement, parce que, finalement, c'est un petit peu le cas. On donne des pourcentages, des minimums, des quotas, etc. Mais quelles sont les mesures contraignantes? Parce que ça dit, je vous demande d'allouer aux femmes au moins. Mais l'on sait très bien, surtout au Sénégal, que sur les questions de parité, qui sont du reste très bien appliquées, appliquées. Mais il y a eu des cas de communes où elles n'ont pas été appliquées et il n'y a pas eu sanction. Donc, quel est le suivi de tout cela?
Effectivement, on a eu le cas de la parité, mais il y a eu des recours. C'est seulement une ville religieuse où la parité n'a pas été appliquée. C'est lié un peu à l'empreinte religieuse qui fait que voilà, même si l'implication des femmes dans les instances de décision n'aurait rien à voir avec la religion a pris l'implication des femmes dans les instances de décision. Et aujourd'hui, en termes d'accès à la terre, on a besoin de femmes dans les instances de décision, dans tout ce qui est organisation domaniale. Là où on attribue des terres, il faut que les femmes soient là. Donc aujourd'hui, cette mesure, ce quota, c'est le premier pour le Sénégal. Je vous ai dit que c'est tiré d'une circulaire depuis 2018. Et depuis 2018, cette circulaire dormait dans les tiroirs. Avec l'avènement de ce nouveau gouvernement, ils ont pu appliquer pour une première fois pour ces campagnes 2024-2025. Donc, on essaiera de voir qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, la société sénégalaise est mobilisée pour faire le suivi. Donc, le ministère concerné, qui est l'agriculture aussi, est en train de faire le suivi et on essaiera de voir s'il y a des manquements, comment porter ça, en tout cas, plus haut, attirer en tout cas l'attention sur ces manquements. Mais on a aujourd'hui, sur des quotas-là, faire le suivi très près, une forte mobilisation des organisations de la société civile, mais aussi des organisations de femmes pour un meilleur respect, en tout cas, de ces quotas. C'est autrement, parce que le cadre juridique est favorable, mais il y a un problème d'applicabilité. Comment faire? Il faut aller vers, en tout cas, des quotas et faire le suivi.
Merci, docteur Saliba. Restez avec nous. On va rester en République démocratique du Congo pour écouter Christian Outchamin, qui est à Bounia, en Ituri. Ensuite, on écoutera Marie Desange Loumo, qui est à Goma. Écoutons tout de suite Christian.
Dans mon pays, la réalité est vraiment différente parce que beaucoup sont des femmes qui travaillent au champ, qui cultivent la terre et aussi avec des petits enfants. Les maris, ils sont toujours occupés à faire d'autres choses, surtout au village. Si vous possédez un champ, un mari doit toujours aller seulement à lever des mauvaises herbes, après ça, planter, sarclef et tout ça, ce sont des femmes qui font ça. Mais les premiers seulement qui ne possèdent pas la terre, proprement dit, ce sont seulement des hommes qui possèdent ça. C'est ça vraiment ce qui est comme illégal dans mon pays. Ça serait mieux comme ceux des femmes qui cultivent, ceux des femmes qui passent plus de temps au champ. On devrait faire quelque chose afin qu'ils puissent posséder aussi la terre. Okay, merci. Moi, c'est M. Christian Outchamin, la République démocratique du Congo avec des bougnes.
La plupart des villages à l'est de la RDC, particulièrement au nord et au sud de Kivu, vivent de l'agriculture. Et le gros de la catégorie de la population qui s'adonne à l'agriculture, ce sont les femmes. Ils ont un pouvoir d'utiliser la terre, mais très peu ont le pouvoir de contrôle, le pouvoir de disposer de la terre. Et cela fait allusion au droit de propriété. Récemment, je me rappelle, nous avons été dans un atelier, on a fait un petit état des lieux. On a réalisé que même le peu des femmes qui ont de la propriété sur les terres ne savent pas en disposer sans l'accord de leur mari ou sans l'accord de leurs frères pour celles qui ne sont pas mariées. Oui, les lois sont là qui garantissent l'accès, le contrôle des terres aux femmes, mais c'est encore un sujet très très compliqué à cause du poids des us et coutumes. Parfois, il y a des chefs, les gardiens des coutumes qui sont appelés dans des ateliers, des sensibilisations sur les droits des femmes et tout ça. Ils manifestent une certaine compréhension par rapport à ces sujets, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Ce qui fait que pour aider à l'amélioration de cet aspect des droits fonciers des femmes, il y a un grand travail à faire de conscientisation. Les chefs coutumiers ont besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'ils devraient lâcher leur pratique habituelle.
Voilà, c'était Marie Desange Loumo qui est à Goma en République démocratique du Congo et qui justement milite pour l'accès, l'accès des femmes aux ressources naturelles notamment. Nous avons une autre invitée en ligne, une Guinéenne féministe, Yolande Condé Camara, qui est experte en genre et agriculture, entre autres spécialités. Yolande, comment allez-vous?
Oui, ça va, merci.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu s'il y a, bon, je ne sais pas, des lois spécifiques, en tout cas, est-ce que la loi prévoit pour l'accès des femmes à la terre ou s'il n'y a rien de spécifique et voir un petit peu aussi s'il y a du blocage de ce côté-là au niveau de l'accès des femmes à la terre.
Mais en fait, pour ce qui est spécifique à l'accès aux terres, les textes de loi ne sont pas très clairs, mais c'est sûr qu'en Guinée aussi, on fait la promotion pour les femmes, pour leur donner plus de droits. Mais encore une fois, je sais que, par exemple, la loi coutumière, elle, ne donne aucun accès au foncier pour l'instant aux femmes. Donc les femmes n'ont pas droit à l'héritage, elles n'ont pas droit aux terres dans le cadre de l'héritage, c'est seulement les hommes qui peuvent. La loi positive, le droit positif essaye de d'aider, mais le droit foncier n'est pas clair encore sur ce point.
D'accord. Alors on revient vers Docteur Séliba au Sénégal. Séliba, vous êtes aussi experte en droit islamique. Hein. Les femmes, on sait que les femmes sont assez désavantagées, notamment au niveau des questions d'héritage, etc. Est-ce que sur les questions d'accès à la terre, cela joue aussi encore beaucoup au Sénégal par rapport au fait que l'on est une très grande majorité de musulmans?
Les femmes ne sont pas désavantagées sur le plan de l'héritage. Je m'explique dans l'islam. En matière d'héritage en islam, il y a trois situations. Il y a trois situations. La première situation, c'est là où on a l'homme qui a deux parts, plus que part que la femme. Et ça, ce n'est pas lié à une domination, mais c'est lié à une responsabilité. Quand vous êtes de même père et de même mère, on a ce cas de figure où on donne deux parts à l'homme. Et dans ces deux parts-là, l'homme, avec une part de plus, doit prendre en charge la sœur, la mère, etc. Donc, ce n'est pas signe de domination parce que j'ai deux parts, l'autre à une part, mais ce surplus de parts, c'est pour repartager ce part avec les autres. Oui. Donc, c'est ça qu'il faut clarifier.
Oui. Il y a s'il le fait réellement. Mais ce n'est pas le sujet. Continuez très rapidement sur la question de l'accès à la terre.
Dans la deuxième situation, l'homme et la femme peuvent avoir les deux parts. Donc, peuvent avoir les mêmes inégalités en termes d'héritage. Et dans la troisième situation, la femme peut avoir. Malheureusement, dans le discours que vous entendez, on se situe sur la première situation et on ne donne pas de raison. Au Sénégal, 95% de musulmans, mais le Sénégal, c'est un pays laïque. D'accord? Les droits que nous avons, c'est un pays vraiment laïque. Donc, c'est le droit positif.
Donc, vous nous avez bien expliqué. Merci beaucoup pour l'explication. Je vais poser la question autrement. Tous les commentaires que nous avons eus le disent bien, hein, quelle que soit la religion, quelle que soit la coutume, mais on est bien d'accord que sur dans la plupart des régions en Afrique, les femmes qui travaillent énormément au travail de la terre ont beaucoup de difficultés à accéder à la terre et on le voit au niveau de la propriété. Donc, qu'est-ce qui fait que ça bloque encore, sachant que ces femmes, elles ont besoin d'être propriétaires de ces terres. Donc, qu'est-ce qui fait exactement qui bloque tout cela? Parce qu'on a les chiffres sont là tout de même. Allô? Allô, allô?
Ce qui bloque, c'est...
Allez-y,
ce qui bloque, c'est un système social inégalitaire. C'est le substrat social qui reste foncièrement inégalitaire, foncièrement patriarcat. C'est ce substrat social qu'il faut s'attaquer. Donc, je vous ai dit que c'est lié à ces... culturels qui font que quand même qui donnent une position prééminente de l'homme sur la femme et une position de l'homme de mainmise qui détermine en tout cas les conditions d'accès. Donc tout se joue un peu de ce substrat social. Nous avons le contexte juridique favorable, mais si on ne travaille pas sur ce substrat social, on n'arrive pas à régler le problème. Sachant que dans les pays africains, la loi positive qui est votée dans le Parlement, il y a un problème d'appropriation de ces lois-là. Parce qu'encore une fois, nous sommes des anciens colonisés et que nous avons un problème avec nos institutions qui sont mises en place par le plan. Donc, il y a un problème même d'appropriation de ces institutions-là. Mmh. Voilà. Donc, alors, les lois qui sont votées, ouais, etc.
On a plus que 5 minutes. On a encore beaucoup d'auditeurs d'audio à écouter. Et je voudrais qu'on revienne vers Yolande Condé. Yolande Condé Camara, vous avez vous-même, très rapidement, vous avez vous-même, vous n'allez pas rentrer dans les détails, mais un problème, je crois, avec des terres dont vous m'aviez parlé. Est-ce que cela est dû au fait que vous soyez une femme ou c'est quelque chose de complètement différent qui n'a rien à voir avec le fait que vous soyez une femme?
Je dirais que si les deux sont liés, il y a le fait que le problème est un enjeu, le problème des terres, c'est un enjeu sérieux en Guinée à cause des problèmes politiques, identitaires, statuaires, de succession et de transmission d'héritage, ok? Et de surcroît, d'être une femme qui veut accéder à ces terres pour travailler, ben ça l'accentue encore plus. Je vous dis, quand je venais juste d'arriver, après, quand la personne a vu que j'avais fait une ferme et que ça marchait bien, le monsieur est venu me dire, il n'est pas de ma famille, il n'a aucun accès sur ces terres. Il m'a dit, mais là, aujourd'hui, je suis vraiment gênée parce que je ne comprenais pas pourquoi on donnait accès à toutes ces terres à une femme. Mmh. Donc, et pourtant, cet homme n'est pas de ma famille. Donc, il n'a normalement aucun droit sur ma famille. Mais cela peut entraîner des problèmes parce que ces personnes, même s'ils ne sont pas de ma famille, ils peuvent venir, des fois, ils peuvent brûler, ils peuvent te dire, tu n'as pas accès au marigot. Ils peuvent arrêter tes travaux, ils peuvent retarder tes travaux.
Alors, donc, Yolande,
je pense que...
Alors, je m'excuse de vous couper là, mais on est un petit peu pressé par le temps. Finalement, ce que vous dites, ça rejoint un petit peu ce que disait Docteur Célibat sur la question du patriarcat. Mais je voudrais qu'on écoute maintenant deux dames parce qu'elles ont vraiment des choses intéressantes à dire. C'est Naon Magasuba qui est au Mali. Et ensuite, on écoutera Elodie Ntamuzinda qui est en RDC.
Je voyais un griot sur un plateau télévisé du Mali dire que la femme, une fois mariée, n'a pas de chez soi, sauf chez son mari. Et selon lui, la femme n'a pas d'héritage foncé chez son père. Mais ce que nous oublions, c'est que ça, c'était la pensée de nos aïeux. Mais le monde actuel ne marche pas avec cette pensée. Parce que dans la plupart du temps, il y a des femmes qui se sont battues elles-mêmes, qui ont construit elles-mêmes, qui ont acheté des terres et en ont fait des terres agricoles. Maintenant, quand on parle d'héritage, il se peut même que ces femmes meurent. On va dire à son enfant-fille qu'elle n'a pas d'héritage parce qu'elle est une fille. Elle doit aller se marier. Alors que c'est une femme qui a fait que ces terres-là existent aujourd'hui.
Nous avons hérité des coutumes, des pratiques, mais aussi des jurisprudences qui n'ont pas facilité la femme à accéder non seulement aux instances de prise de décision, mais aussi à l'acquisition de certains biens immobiliers. Et là, nous voyons les terrains, par exemple, les terres, même les maisons, il y a toujours des problèmes, mais les lois protègent tout le monde. Sauf que les lois ne sont pas assez vulgarisées. Et j'ai comme impression que les uns et les autres tirent juste ce qui les arrange. Mais si nous trouvons dans les codes miniers, par exemple, les codes forestiers, codes agricoles, vous allez trouver que tout le monde peut trouver son compte. Là, je parle du cas de la RDC. Malheureusement, souvent, nous restons juste penchés dans les pratiques, dans les jurisprudences, dans les coutumes. Imaginez-vous une...
Voilà, donc c'était Elodie Ntamuzinda, elle est en République démocratique du Congo. Un petit mot de la fin très rapidement, docteur Célibat, sur ce que vous venez d'entendre, vous avez 15 secondes, on vous écoute.
Oui, c'est important de renforcer les capacités des femmes en leadership pour leur participation dans les instances de décision au niveau local, surtout dans les commissions domaniales. Il faut accompagner les femmes pour l'obtention de titres sécurisants. Il faut renforcer le travail à la base. pour que les femmes puissent accéder au foncier, les appuyer pour revendiquer leurs droits, utiliser la voie juridique pour contraindre les pesanteurs socio-culturels. Il faut convaincre davantage les acteurs locaux et nationaux sur l'importance de cette question.
Je suis désolée, on arrive au terme. Pardonnez-moi, docteur Seliba. Merci beaucoup également à Yolande Condé-Camara. C'était Nathalie Barge avec vous à la production. Georges Léonard Sagnot, restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et très bon courage.